Brothers and sisters,
frères et sœurs, nous vous souhaitons la bienvenue à cette veillée du département d'éducation de l'Église pour les jeunes adultes. Cette émission est diffusée depuis le tabernacle de Temple Square à Salt Lake City, en Utah. Elle est interprétée en de nombreuses langues pour les jeunes adultes de par le monde. Je suis Dean R. Burgess, président du pieu des jeunes adultes de Sandy, en Utah. Nous souhaitons la bienvenue à Gérald Cossé, de l'Épiscopat président. Nous sommes reconnaissants que Sœur Cossé l'accompagne ce soir. Nous présenterons Frère Cossé un peu plus tard. Il sera l'orateur de la soirée. Nous sommes reconnaissants de la présence d'autres autorités générales et de 70 interrégions, de membres du Bureau de l'éducation et de dirigeants de LDS Business College qui accueillent notre veillée. Nous saluons également la présence sur l'estrade d'administrateurs du DEE, et des séminaires et instituts de religion, ainsi que de présidents de pieux locaux avec leurs épouses. Nous vous rappelons que le dimanche 13 janvier 2013, Dieter F. Uchtdorf, deuxième conseiller dans la première présidence, sera l'orateur de la veillée du DEE. Pour commencer cette soirée, le chœur et l'assemblée chanteront « Bien choisir » numéro 154. Nous remercions Stéphanie Sampson qui dirigera la musique et Linda Bargas qui nous accompagnera. Après le cantique, frère Sam Rudd fera la prière d'ouverture.
Notre Père Céleste, nous sommes reconnaissants pour ce jour de sabbat où nous avons eu l'occasion de te louer, d'aller à l'église et de prendre la Sainte Cène et de renouveler nos alliances. Nous sommes heureux d'être dans le tabernacle ce soir et de pouvoir entendre, écouter Frère Cossé. Nous prions que ton esprit soit avec nous, afin que nos cœurs s'ouvrent et que nous puissions apprendre les choses que tu veux que nous apprenions. Nous sommes reconnaissants pour d'être membres de ton Église et nous sommes reconnaissants pour toutes nos bénédictions et toutes les bénédictions que tu nous donnes. Nous prions maintenant pour ceux qui ont été touchés par les désastres naturels afin que ton esprit soit avec eux et que tout pourra bien se dérouler pour eux. Nous sommes reconnaissants pour ton Sauveur et pour tout ce qu'il a fait pour nous. Nous sommes reconnaissants pour son expiation et nous prions que nous pourrons appliquer ceci dans nos vies. Nous sommes aussi reconnaissants d'être ici ce soir et prions que ton esprit soit avec nous. Nous disons ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen.
Nous avons avec nous ce soir un chœur combiné du LDS Business College et des instituts de religion de la vallée de Salt Lake, qui chantera « Come, let us anew ». Il est dirigé par Craig Allen et accompagné par Sir Margaret. Après cet intermède musical, nous aurons le plaisir d'écouter Frère Cossé. Après le discours de Frère Cossé, le chœur chantera « Jésus naît bien humblement et je veux ressembler à Jésus ». Il sera dirigé par Hall W. Rombrell et accompagné par Sir Margaret. Ensuite, Rachel Rasmussen fera la prière de clôture. J'ai maintenant l'honneur de présenter l'orateur de la soirée. Gérald Cossé, 48 ans, était membre du premier collège des 70 et conseiller dans la présidence de l'interrégion d'Europe quand il a accepté l'appel à l'épiscopat président à la conférence générale d'avril 2012. Il a servi dans l'Église comme président de collège d'anciens, conseiller d'évêque, conseiller de président de pieux et 70 d'interrégion. Frère Cossé a reçu un master de gestion des affaires de l'ESSEC et a fait carrière dans l'agroalimentaire. Il a travaillé dans plusieurs chaînes de supermarchés et sociétés de distribution. Il a été le directeur général de Pomona, société de distribution alimentaire en France, jusqu'à 2008. Il a été directeur de la logistique du groupe Carrefour, entreprise de détail du secteur de l'alimentaire. Frère Cossé est né à Bordeaux, en France. Il est marié à Valérie Rababin. Ils ont 5 enfants et 3 petits-enfants. Le chœur va maintenant chanter.
Around with the year and ever sense till the Thank you. It was a magnificent choir. My dear brothers and sisters, tonight I feel greatly honored and privileged to have the opportunity to address you. I have profound admiration for the young adults of the church, and I rejoice in being able to spend some time this evening with you. Several thousands
je ne peux pas voir, rassemblés dans des milliers de lieux de réunion partout dans le monde. Mais je vous sais attentif et désireux d'apprendre. Malgré la distance qui nous sépare, je sais que le Saint-Esprit peut être présent partout où nous sommes. Plus encore que la diffusion par satellite, c'est la présence du Saint-Esprit qui crée un lien unique entre nous tous. Je prie pour qu'il soit avec nous, qu'il nous instruise, nous guide et nous inspire ce soir. Nous sommes dans une magnifique salle, un monument historique, qui rend hommage à la foi et au travail des pionniers qui ont fondé Salt Lake City. Je suis entré pour la première fois dans ce tabernacle à l'âge de 16 ans. C'était à l'occasion de mon premier voyage aux États-Unis d'Amérique. Mon père m'avait proposé de l'accompagner pour un de ses voyages d'affaires en Californie. Jeune homme, élevé dans le sud de la France, j'avais sauté de joie à cette annonce. J'allais enfin découvrir l'Amérique. Mon enthousiasme était d'autant plus grand que notre itinéraire comprenait un week-end à Salt Lake City pour assister à la conférence générale. Je me souviens de notre arrivée en Utah, dans notre Ford Mustang, sous des bourrasques de neige. Notre longue route nous avait fait traverser des déserts à perte de vue, de magnifiques canyons aux couleurs ocre, des montagnes majestueuses. C'était un vrai décor de western. J'écarquillais les yeux en espérant apercevoir des cowboys ou des indiens sur le bord de la route. Le lendemain, grâce à la gentillesse d'un ami, nous avons trouvé des places dans le tabernacle, dans les tout premiers rangs, là-bas, à droite, pour assister aux sessions de la conférence. J'étais très impressionné. Tout au long des réunions, j'essayais de m'accrocher aux quelques mots d'anglais que j'arrivais à saisir. Je me souviens encore du discours du président Benson. Pas vraiment de ses paroles, mais de l'impression profonde qu'il fit sur mon cœur de jeune homme. Je vivais presque un rêve, une merveilleuse aventure. Aurais-je pu imaginer à cette époque ce qui arrive ce soir, en ce moment même? Aurais-je pu imaginer donner un jour un discours dans ce même tabernacle devant une telle assemblée? Jamais, bien sûr. La vie réserve bien des surprises, n'est-ce pas? Même il y a 5 ans, je n'aurais pas pu l'imaginer. À l'époque, ma famille et moi vivions à Paris, et notre vie semblait toute tracée. Nos 5 enfants étaient tous nés dans la même clinique près de chez nous. Et pour nous, la vie ne s'imaginait pas autrement ni ailleurs que dans ce coin paisible de la région parisienne, entouré de nos enfants, et bientôt de nos petits-enfants. Quand un soir, le président Manson a appelé à la maison, et notre vie en a été bouleversée. Ma famille et moi avons depuis découvert les joies de la vie en Utah. Les sites historiques de l'église, les randonnées en montagne, les barbecues dans le jardin, sur fond de coucher de soleil, les dégustations de hamburgers de toutes sortes, les meilleurs et les pires, les matchs de football, des Cougars et des Utes. Et sait-on jamais, le cow-boy que vous apercevrez demain au bord de l'autoroute, ce sera peut-être moi. Mon travail en tant que membre de l'épiscopat président est passionnant et exaltant. Pourtant, cette expérience est très différente de ce qu'étaient mes projets de jeunesse. Enfant, je voulais devenir archéologue. Ma grand-mère, veillant à ma bonne éducation, m'avait offert un livre sur le jeune pharaon Toutankhamon, et j'en avais conçu une passion pour les civilisations anciennes. Les murs de ma chambre étaient couverts de dessins de batailles antiques, que je passais mes week-ends à réaliser. J'avais un rêve, celui d'aller un jour en Égypte pour participer aux fouilles des temples de l'Égypte ancienne et des tombes des pharaons. 4 décennies plus tard, je ne suis toujours pas archéologue et je ne le serai probablement jamais. Je ne suis jamais allé en Égypte et mon dernier emploi avant d'être autorité générale était dans la distribution alimentaire. Pas grand-chose à voir avec mes projets d'enfance. La jeunesse est en général le moment parfait pour concevoir des projets personnels. Chacun a ses rêves d'enfance. En tant que jeune adulte, Vous devriez toujours avoir des projets d'avenir, chacun d'entre vous. Peut-être est-ce l'espoir d'un exploit sportif, de la réalisation d'une belle œuvre d'art, d'un diplôme ou d'une position professionnelle, acquis à force de travail et de persévérance. Peut-être même avez-vous une image très précise de votre futur époux ou épouse, son aspect physique, ses traits de caractère, la couleur de ses yeux ou de ses cheveux, et des beaux enfants que vous aurez ensemble. Combien d'entre vos vœux se réaliseront? La vie est pleine d'incertitudes. Des surprises vont surgir tout au long du chemin. Qui sait ce qui arrivera demain? Où vous serez dans quelques années? Et ce que vous ferez? La vie est comme un roman à suspense, dont la trame est bien difficile à deviner. Il y aura pour vous des moments clés qui pourront changer le cours de votre vie en un instant. Parfois, il suffit d'un regard, d'une conversation, d'un événement imprévu. Valérie et moi, nous souvenons toujours du moment précis où nous sommes tombés amoureux l'un de l'autre, lors d'une répétition du chœur de notre paroisse de jeunes adultes à Paris. Ce fut totalement inattendu. Nous nous connaissions depuis l'enfance et nous n'avions jamais éprouvé de sentiments amoureux l'un pour l'autre. Ce soir-là, j'étais au piano, elle chantait dans le chœur. Nos regards se sont croisés et quelque chose s'est passé. Une seconde pour toute une éternité. Il y aura de nouvelles possibilités qui se présenteront dans votre vie, comme la récente déclaration du président Monson concernant l'âge du service missionnaire. Suite à un discours du prophète, ce sont probablement des milliers de jeunes gens et jeunes filles de l'Église qui sont en train de modifier leur plan de départ en mission. Parfois, ce sont des difficultés imprévues ou des déceptions qui changeront le cours de votre vie. J'ai appris par expérience que nous ne contrôlons que partiellement les circonstances de notre vie. Or, la plupart des gens n'aiment pas l'inconnu. L'incertitude de la vie entraîne chez certaines personnes un manque de confiance, une crainte de l'avenir, qui se manifeste de différentes manières. Certains hésitent à prendre des engagements, même quand les occasions se présentent, par peur de l'échec. Par exemple, ils vont retarder le moment de faire des études, de se marier, de fonder une famille ou de s'engager dans une activité professionnelle stable, préférant rester dans le confort douillet du foyer parental. Une autre philosophie qui nous empêche de progresser est illustrée par cette maxime. Mangeons, buvons, réjouissons-nous car demain nous mourrons. Autrement dit, puisque nous ne savons pas ce que nous réserve demain, et sachant que nous mourrons tous un jour, nous devrions profiter au maximum du moment présent. Cette philosophie privilégie le plaisir immédiat, quelles que soient les conséquences dans le futur. Mes jeunes frères et sœurs, mon message pour vous aujourd'hui est qu'il existe une autre voie que celle de la crainte et du doute. Une voie qui apporte paix, confiance et sérénité dans la vie. Vous ne pouvez pas contrôler toutes les circonstances de votre vie. Des événements imprévus, bons ou difficiles, se produiront dans le futur. Cependant, j'affirme que vous avez le contrôle de votre bonheur. Vous en êtes les artisans. J'ai encore en mémoire ces paroles sages prononcées par le président Udorf lors de la dernière conférence générale. Plus nous avançons en âge, plus nous regardons en arrière et nous rendons compte que les circonstances extérieures n'ont pas vraiment d'importance ni ne déterminent notre bonheur. Nous déterminons notre bonheur. Non, votre bonheur n'est pas vraiment lié aux circonstances de votre vie. Il est beaucoup plus le résultat d'une vision spirituelle et des principes sur lesquels vous la fondez. Ces principes vous apporteront le bonheur indépendamment des imprévus et des surprises que vous devrez affronter pendant votre existence terrestre. Je vous propose ce soir de passer en revue quelques-uns de ces principes essentiels. Voici un premier principe. Prenez conscience de votre valeur personnelle. Cet été, ma famille et moi avons passé quelques jours de détente en Provence, une magnifique région du sud de la France. Un soir, alors que le soleil venait de se coucher, et que l'obscurité avait envahi la campagne environnante, j'ai décidé de passer un moment de tranquillité, allongé sur une chaise longue, à l'extérieur de la maison. Tout était tellement sombre que j'avais de la peine à distinguer quoi que ce soit autour de moi. Mes yeux ont commencé à scruter la voûte céleste. Elle était d'un noir opaque, quand soudain une lumière est apparue dans le ciel, telle une étincelle, puis deux, puis trois. Progressivement, mes yeux, s'habituant à l'obscurité, c'est une myriade d'étoiles que je pouvais admirer. Ce que je pensais être un ciel noir s'était transformé en voie lactée. Je pensais, c'est un peu la même chose dans notre relation personnelle avec Dieu. Combien de gens croient qu'il est lointain ou inexistant? Cela trouve que leur vie est bien sombre et obscure. Mais ils ne prennent même pas le temps, ni la peine, de scruter les cieux pour s'apercevoir qu'il est là, si près de nous. Mon esprit a continué à vagabonder. J'ai médité sur l'immensité de l'univers qui se présentait devant mes yeux, et sur ma propre insignifiance physique. Et je me suis interrogé. Qui suis-je face à tant de grandeur et de magnificence? Aussitôt, une écriture s'est rappelée à ma mémoire. C'est une très belle écriture, un de ces psaumes de David dont la poésie m'a toujours inspiré. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Et tout de suite, cette phrase réconfortante. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. C'est là tout le miracle et le paradoxe de la création. L'univers est immense et infini, et en même temps, ma vie et ma personne ont une valeur unique, glorieuse et infinie aux yeux du Créateur. Ma présence physique est infinitésimale, et pourtant, ma valeur personnelle est infiniment importante aux yeux de mon Père Céleste. Le président Hochdorf a déclaré « Où que vous soyez, quelle que puisse être votre situation, vous n'êtes pas oublié. Aussi sombre que puissent paraître vos journées, aussi insignifiant que vous ayez le sentiment d'être, aussi éclipsé que vous pensiez être, votre Père Céleste ne vous a pas oublié. En réalité, il vous aime d'un amour infini. L'être le plus majestueux, le plus puissant, le plus glorieux de l'univers vous connaît et se souvient de vous. Vous êtes aimé par le roi de l'espace infini et du temps éternel. » Savoir que Dieu nous connaît et nous aime personnellement, c'est comme une lumière qui éclaire notre vie et lui donne un sens. Je me souviens de cette jeune sœur qui est venue me voir après un coin de feu que j'avais donné à Rome. La voix remplie d'émotion, elle m'a parlé de sa sœur, qui traversait des moments de trouble et d'anxiété. Puis, elle m'a posé cette question. Comment puis-je l'aider à savoir que son Père Céleste l'aime? N'est-ce pas là une question essentielle? Comment savoir que Dieu nous aime? En général, le sentiment que nous avons de notre valeur personnelle dépend de l'amour et de l'intérêt que nous porte ce qui nous entoure. Or, cet amour vient parfois manquer. L'amour des hommes est souvent imparfait, incomplet ou intéressé. Celui de Dieu, lui, est parfait, complet et désintéressé. Qui que je sois, que j'aie des amis ou pas, que je sois populaire ou pas, même si je me sens rejeté ou persécuté par d'autres, j'ai une assurance absolue. Mon Père Céleste même. Il connaît mes besoins. Il comprend mes inquiétudes. Il veut me bénir. La plus belle preuve de son amour pour moi est qu'il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il n'a pas retiré la coupe amère du Sauveur, bien qu'étant sûrement à l'agonie lui-même, en voyant son Fils souffrir dans le jardin de Gethsémané et sur la croix. Christ a expié les péchés de tous les hommes. Une partie de cette grande expiation m'était destinée et m'est réservée aujourd'hui, grâce à ce don infini partagé par le Père et le Fils Je sais que j'ai une grande valeur à leurs yeux. Mes jeunes frères et sœurs, imaginez que vous puissiez vous voir tel que Dieu vous voit. Que verriez-vous? Si vous pouviez vous regarder avec le même regard bienveillant, plein d'amour et de confiance que Dieu a pour vous, qui verriez-vous? Imaginez que vous puissiez voir votre potentiel éternel tel que Dieu le voit. Quelle influence cela aurait-il sur votre vie? Je témoigne qu'il est là. Cherchez-le, scrutez et étudiez, priez et demandez. Je vous promets que Dieu vous enverra des signes tangibles de son existence et de son amour pour vous. Ce pourra être une réponse à une prière. Ce pourra être la douce influence du Saint-Esprit pour vous consoler ou vous apaiser. Ce pourra être aussi une inspiration subite ou une force nouvelle dont vous savez qu'elle ne vienne pas de vous. Ce sera peut-être un membre de votre famille, un ami ou un dirigeant de prêtrise qui sera là, au bon endroit et au bon moment pour vous aider. Si vous le cherchez, il trouvera toujours un moyen de vous faire savoir qu'il est là, près de vous. Maintenant, un deuxième principe du bonheur. Devenez qui vous êtes. Cette phrase « Devenez qui vous êtes » est attribuée à Pindare, l'un des plus célèbres poètes lyriques grecs. Elle ressemble à un paradoxe. Comment puis-je devenir ce que je suis déjà? Je vais illustrer ce principe par une histoire. J'ai récemment vu un film nommé « L'âge de raison ». Ce film raconte l'histoire de Marguerite, une banquière prospère qui mène une vie trépidante, faite de voyages et de conférences aux quatre coins de la planète. Bien que mariée, elle dit ne pas avoir eu le temps d'avoir un enfant. Le jour de ses 40 ans, elle reçoit une lettre mystérieuse qui dit « Cher moi-même, aujourd'hui j'ai 7 ans et je t'écris cette lettre pour t'aider à te souvenir des promesses que je fais à l'âge de raison et aussi pour que tu te souviennes de qui je veux devenir. » Marguerite comprend soudain que l'auteur de la lettre n'est autre qu'elle-même quand elle avait 7 ans. Suivent plusieurs pages où la petite fille décrit avec force détail ses objectifs pour la vie. Marguerite prend alors conscience que la personne qu'elle est devenue ne correspond en rien à celle qu'elle désirait être quand elle était petite fille. Elle décide de devenir cette personne, et sa vie toute planifiée et organisée s'en trouve complètement chamboulée. Elle va renouer avec sa famille et consacrer le reste de sa vie à servir les personnes dans le besoin. Mes chers amis, si vous deviez recevoir maintenant une lettre de votre passé, que dirait-elle? Que dirait cette lettre si vous-même l'aviez écrite le jour de votre baptême à l'âge de 8 ans? J'irai même plus loin. S'il vous était possible de recevoir une lettre de votre préexistence, que dirait-elle? Que se passerait-il dans votre vie si vous deviez recevoir une telle lettre, venue d'un monde oublié mais bien réel? Cette lettre pourrait dire quelque chose comme « Cher moi-même, je t'écris pour que tu te souviennes de qui je veux devenir. J'ai poussé des cris de joie à l'idée de venir sur la terre. Je sais que cette vie est un passage essentiel pour me permettre de réaliser mon potentiel et de vivre avec notre Père Céleste pour toute l'éternité. J'espère que tu te souviendras que mon plus grand désir est celui d'être un disciple de notre Sauveur Jésus-Christ. Je soutiens son plan, et quand je serai sur terre, je veux l'aider dans son œuvre du salut. Tu dois aussi te souvenir que je veux appartenir à une famille qui sera ensemble pour toute l'éternité. » Cette dernière pensée me rappelle un très beau chant qui se trouve dans le livre d'hymnes français de l'Église et qui n'existe dans le livre d'hymnes d'aucun autre pays. Il s'intitule « Souviens-toi » et emprunte la musique de la Symphonie du Nouveau Monde d'Antonin Dvorak. C'est le chant d'un père ou d'une mère s'adressant à son enfant nouveau-né. Je vais vous en lire la troisième strophe. « Souviens-toi, mon enfant. À l'aube des temps, nous étions des amis jouant dans le vent. Puis, un jour, dans la joie, nous avons choisi d'accepter du Seigneur le grand plan de vie. Ce soir-là, mon enfant, nous avons promis, par l'amour, par la foi, d'être réunis. Souviens-toi, mon enfant, l'une des grandes aventures de la vie consiste à trouver qui nous sommes réellement, d'où nous venons, et ensuite de vivre en harmonie et en cohérence avec notre identité et la finalité de notre existence. Brigham Young a dit « La plus grande leçon que vous puissiez apprendre est de vous connaître. Vous êtes venu ici-bas pour l'apprendre. Nul ne peut se connaître parfaitement sans une certaine connaissance des choses de Dieu. Et nul ne peut apprendre et comprendre les choses de Dieu sans se connaître soi-même. Il faut se connaître soi-même, sans quoi l'on ne pourra jamais connaître Dieu. » Récemment, mes filles m'ont fait remarquer qu'une excellente allégorie de ce principe existe dans le film Le Roi Lion. Votre génération a grandi aux sons et aux images de ce dessin animé. Vous vous souviendrez probablement de cet épisode où Simba reçoit la visite de son père défunt, Mufasa. Après la mort de son père, le roi, il a fui loin du royaume, car il se sent coupable de sa mort. Il veut échapper à son passé, qui le désigne comme prétendant au trône. Son père lui apparaît et le met en garde. « Tu m'as oublié en oubliant qui tu étais. Regarde en toi. Tu vaux mieux que ce que tu es devenu. Il te faut reprendre ta place dans le cycle de la vie. » Puis vient cette invitation, plusieurs fois répétée. « N'oublie pas qui tu es. N'oublie pas qui tu es. » Simba, tout retourné par cette expérience, décide d'accepter son destin. Il se confie à son ami, le singe sorcier. Changer, c'est bien, mais ce n'est pas si facile. Je sais ce que je dois faire, mais pour revenir, je dois faire face à mon passé. Et je le fuis depuis si longtemps. Où vas-tu ? Lui demande le singe. Reprendre ma place, s'écrie Simba en s'éloignant. Nous pouvons tous prendre ou reprendre notre place dans le cycle de la vie. Devenir qui nous sommes réellement. Notre bonheur et notre équilibre sur cette terre passe par le fait de trouver, reconnaître et accepter notre vraie identité d'enfant de notre Père Céleste et de vivre en conformité avec cette connaissance. Je vous présente maintenant un troisième principe du bonheur. Ayez confiance dans les promesses de Dieu. J'adore ces paroles motivantes du président Manson. L'avenir est aussi brillant que votre foi. Notre réussite et notre bonheur dans la vie dépendent en grande partie de la foi que nous avons dans le Seigneur et de la confiance que nous avons qui nous aidera à accomplir notre propre destinée. J'ai souvent remarqué que les hommes et les femmes qui réalisent des choses marquantes avaient une grande confiance dans leur avenir dès les premières années de leur jeunesse. Un cas intéressant est celui de Winston Churchill, célèbre homme d'État britannique. Jeune homme, il avait une confiance inébranlable en son avenir. Alors qu'il servait dans un régiment de cavalerie en Inde, à l'âge de 23 ans, il écrivit à sa mère « J'ai foi en mon étoile, foi que je suis destiné à faire quelque chose dans le monde. » Quelle pensée prophétique ! Il allait en effet devenir un homme clé de l'histoire de son pays. Celui qui conduirait la Grande-Bretagne à la victoire pendant la Deuxième Guerre mondiale. Je crois que chacun de vous, jeunes membres de l'Église de Jésus-Christ, a beaucoup plus qu'une étoile dans le ciel pour le guider. Dieu veille sur vous et vous fait des promesses. Un passage du livre de Malachie est au cœur du rétablissement de l'Évangile, depuis qu'il a été utilisé par l'ange Moroni à chacune de ses visites au jeune Joseph Smith. L'ange dit, citant Élie le prophète, « Et il implantera dans le cœur des enfants les promesses faites au Père. Et le cœur des enfants se tournera vers leur Père. » Mes jeunes frères et sœurs, grâce au rétablissement, vous êtes les enfants de la promesse. Vous recevrez en héritage les promesses faites à vos pères. Ces promesses du Seigneur font de vous une génération royale. Beaucoup d'entre vous dans cette salle comptent parmi leurs ancêtres de nobles pionniers qui ont permis l'implantation de l'Église rétablie, à force de courage et de sacrifice. Des générations de saints valeureux vous ont précédé. D'autres, qui m'écoutent aujourd'hui, sont les pionniers de leur propre famille dans leur pays. Ils sont le premier maillon de ce qui deviendra une chaîne éternelle. Quelle que soit votre histoire, en tant que membre de l'Église, vous êtes tous rattachés à une famille spirituelle. Votre généalogie spirituelle fait de vous les descendants des pères et, comme annoncé par les prophètes, les héritiers de leurs promesses. Relisez votre bénédiction patriarcale. Dans cette bénédiction, le Seigneur vous confirme que vous êtes rattachés à l'une des 12 tribus d'Israël et qu'à ce titre, par votre fidélité, vous devenez héritier des immenses bénédictions promises à Abraham, Isaac et Jacob. Dieu promit à Abraham que tous ceux qui recevront l'Évangile seront appelés de son nom, seront considérés comme sa postérité et se lèveront et le béniront, lui, leur père. En relisant votre bénédiction patriarcale, prenez bien note des promesses que Dieu, le Seigneur, vous fait à titre personnel. Méditez sur chacune d'entre elles. Que signifie-t-elle pour vous? Ces promesses sont tangibles. Si nous faisons notre part, Dieu fera la sienne. J'aime beaucoup ces paroles prononcées par Alma le jour où il confie à son fils et l'amant les annales sacrées. Oh, souviens-toi, mon fils et l'amant. Si tu gardes les commandements de Dieu et fais de ces choses qui sont sacrées ce que le Seigneur te commande, voici, aucune puissance de la terre ou de l'enfer ne pourra te les enlever. Car Dieu est puissant à accomplir toutes ses paroles. Car il accomplira toutes les promesses qu'il te fera. Car il a accompli les promesses qu'il a faites à nos pères. La réalisation des promesses de Dieu est toujours liée à l'observance des lois qui leur sont rattachées. Le Seigneur a aussi dit « Moi, le Seigneur, je suis lié lorsque vous faites ce que je dis. Mais lorsque vous ne faites pas ce que je dis, vous n'avez pas de promesses. » En revanche, ces promesses ne sont pas l'assurance que tout ce qui se passera dans notre vie sera conforme à nos attentes et à nos souhaits. Elles sont plutôt la garantie que ce qui arrivera dans notre vie sera conforme à la volonté de Dieu. Parfois, il se présentera des épreuves imprévues que nous devrons surmonter. Parfois, les bénédictions attendues seront longues à venir. Mais nous saurons alors que ces épreuves et cette attente sont pour notre bien et notre progression éternelle. Que demander de mieux? La meilleure chose que nous puissions désirer dans notre vie est que la volonté du Seigneur s'accomplisse. Il sait tout depuis le début, à une perspective que nous n'avons pas. Il nous aime d'un amour infini. Je vais illustrer ce principe par une expérience personnelle. Quand j'étais jeune, j'ai décidé de préparer l'examen d'entrée pour les meilleures écoles d'affaires en France. Cette préparation, d'une durée d'un an, était très éprouvante et nécessitait un travail personnel de tous les jours. Au début de l'année, j'ai décidé que, quelle que soit la lourdeur de la tâche, je ne laisserai jamais les études m'empêcher d'assister aux réunions du dimanche, ni de participer une fois par semaine aux cours de l'Institut. J'ai même accepté de servir en tant que greffier de ma paroisse, de jeunes adultes, ce qui représentait plusieurs heures de travail chaque semaine. Mais j'étais confiant que le Seigneur saurait reconnaître ma fidélité et m'aiderait à accomplir mes objectifs. À la fin de l'année, à l'approche des examens, j'avais le sentiment d'avoir fait de mon mieux. Je devenais encore plus fervent dans mes prières et mes jeûnes. Quand je me suis présenté au concours de l'école la plus réputée, j'avais pleine confiance que le Seigneur répondrait à mes désirs. Malheureusement, les événements se sont déroulés d'une façon très différente de ce que j'avais espéré. L'oral de ma matière la plus forte a été un désastre inattendu. J'ai reçu une note éliminatoire qui m'a définitivement empêché d'intégrer cette école si convoitée. J'étais totalement désemparé. Comment le Seigneur avait-il ainsi pu m'abandonner quand j'avais été persévérant dans ma fidélité ? Quand je me suis présenté à l'examen oral de la deuxième école, sur ma liste, j'étais rempli de doutes et d'incertitudes. Dans cette école, l'épreuve qui avait le plus fort coefficient était un entretien de 45 minutes, avec un jury présidé par le directeur de l'école. Le début de l'entretien s'est passé normalement, jusqu'à une question anodine. « Nous savons que vous avez beaucoup étudié pour préparer cet examen, mais nous serions intéressés de savoir quelles sont vos activités en dehors de vos études. » Mon sang n'a fait qu'un tour. Depuis un an, je n'avais guère fait que deux choses, étudier et aller à l'église. Je savais que c'était un moment de vérité. Je craignais que le jury interprète négativement mon appartenance à l'église. Mais en une seconde, j'ai pris la décision de rester fidèle à mes principes. J'ai dit « Je suis membre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. » Puis, pendant une quinzaine de minutes, j'ai décrit mes activités au sein de l'Église. Les réunions de culte, les cours d'institut, ma responsabilité de greffier, de paroisse. Quand j'ai eu fini, le directeur de l'école a pris la parole. « Vous savez, je suis content que vous ayez dit cela. » Quand j'étais jeune, j'ai étudié aux États-Unis. L'un de mes meilleurs amis était mormon. C'était un jeune homme remarquable, quelqu'un qui avait de grandes qualités humaines. Je considère que les mormons sont des gens très bien. Quel soulagement ! J'ai reçu ce jour-là l'une des meilleures notes possibles, ce qui m'a valu d'intégrer cette école à une place d'honneur. J'ai remercié le Seigneur pour sa bonté. Mais pourtant, à cette époque, je n'ai pu me résoudre à accepter mon échec à l'école la plus réputée. Pendant longtemps, j'ai gardé en moi un sentiment d'échec et même d'injustice. Il m'a fallu plusieurs années pour comprendre la bénédiction miraculeuse qu'avait été mon échec dans l'école de mes rêves. Dans la deuxième école, j'ai fait des rencontres déterminantes dont les bénéfices se sont fait sentir tout au long de ma carrière professionnelle et encore aujourd'hui, dans ma vie et celle de ma famille. Je sais maintenant que déjà à cette époque, le Seigneur guidait mes pas à sa manière, avec la prescience de la mission qu'il me demanderait d'accomplir plus tard. Mes frères et sœurs, après que nous avons fait tout ce qui est en notre pouvoir, même si les choses ne se passent pas d'une façon que nous comprenons, soyons prêts à accepter la volonté de notre Père Céleste. Nous savons en effet qu'il ne nous infligera rien qui ne soit pas ultimement pour notre bien. Écoutez cette voix apaisante qui murmure à notre oreille. « Toute chair est entre mes mains. Sois tranquille et sache que je suis Dieu. » J'ai récemment vu un très beau film retraçant l'histoire bouleversante des convois de charrettes à bras, Willie et Martin. En mai 1856, deux groupes successifs, comprenant plus d'un millier de saints, quittèrent l'Angleterre pour émigrer en Utah. Quand ils arrivèrent 6 mois plus tard dans la vallée du lac Salé, au terme d'un voyage périlleux, plus de 200 d'entre eux manquaient à l'appel. La plupart étaient morts de maladie, de faim ou d'épuisement, sur le bord de la piste menant à ce qu'ils appelaient Sion. L'un des pionniers, décrit dans le film, m'a profondément impressionné. Il inonde le convoi de sa bonne humeur et de son enthousiasme. C'est pourtant un personnage atypique que l'on ne s'attend pas à voir dans un convoi de charrettes à bras. Homme de petite taille, sévèrement handicapé, il est un miracle à lui tout seul. J'ai appris depuis que ce pionnier valeureux a réellement existé sous le nom de Robert Pierce, de Cheltenham, en Angleterre. L'un de ses compagnons de voyage le décrit comme l'un des voyageurs les plus handicapés que j'ai jamais vus. Il ajoute, ses membres inférieurs étaient paralysés et son corps gravement déformé. Mais sa foi était forte. Il se propulsait avec une vitesse surprenante à l'aide de ses béquilles. Un jour, Robert Pierce se trompa de piste et perdit le convoi de vue. Plusieurs hommes se lancèrent à sa recherche et finirent par le trouver dans une situation très inconfortable. Je les cite. Horrifiés, nous vîmes, autour d'un vieil arbre, deux grands loups, gris, allongés. Une demi-douzaine d'aigles planaient au-dessus de l'arbre, attendant qu'il cesse de crier et de gesticuler avec ses béquilles, afin de se jeter sur lui et de le dévorer entre les racines de l'arbre où il s'était tapi. Nous sommes arrivés à temps pour le sauver du sort qui l'attendait. Nous l'avons déposé sur la charrette que nous avions apportée, de sorte qu'il puisse revenir au campement. Et maintenant, un aperçu du caractère bien trempé de Robert. Le pauvre garçon nous suppliait de le laisser marcher, disant qu'il s'était fait la promesse au début de notre voyage qu'il ferait à pied chaque pouce du chemin jusqu'à Salt Lake City. Puis la partie triste de cette histoire. Mais nous ne l'avons sauvé que pour qu'il poursuive son voyage quelques jours de plus. À la fin du sixième jour de marche, ses ennuis dans ce monde ont pris fin. Il a été enterré sur les bords de la rivière Elkhorn. Sœur Jolene Alphin, qui a compilé l'histoire de Robert Pierce, dit de lui « Il est vraiment remarquable que Robert Pierce ait parcouru 600 milles sur ses béquilles avant de succomber aux épreuves de l'Exode. Son souhait le plus cher était de rejoindre les saints de Sion, pas d'être un fardeau pour aucun de ses compagnons de voyage. Robert ne voulait ni aumône, ni traitement de faveur. » Je me suis posé la question suivante. Pourquoi Dieu, qu'il avait miraculeusement sauvé des loups et des aigles, a-t-il ensuite permis à un homme aussi plein de foi de mourir sur le bord du chemin? Dans le film, on le voit mourir avec une grande sérénité. Alors qu'il s'éteint, on l'entend murmurer. Les missionnaires m'ont dit que je suis important et qu'un jour je serai magnifique. J'ai toujours voulu avoir un corps fort. Maintenant, je vais l'avoir. Quand vous arriverez en Sion, pensez à moi. L'épître de Paul aux Hébreux parle des personnes telles que Robert Pierce en ces termes. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. À la fin de sa vie, Robert Pierce a compris que la destination de son voyage était le royaume des cieux, non pas la vallée du Lac Salé. Ainsi en est-il pour nous tous. Les promesses du Seigneur nous donnent l'assurance de notre destination. L'itinéraire, lui, peut être variable, selon la présence de Dieu. Les circonstances changent, des événements imprévus peuvent survenir, mais les promesses sont assurées par notre fidélité. Sir Anne Pingree a magnifiquement résumé ce que signifie avoir foi dans les promesses de Dieu. Elle cite tout d'abord l'apôtre McConkie. La foi, dans sa forme pleine et pure, requiert une assurance inébranlable et une confiance absolue que Dieu entendra nos suppliques et nous accordera ce que nous demandons, au moment qu'il jugera bon. Croyant cela, nous pouvons, nous aussi, demeurer fermes dans la foi aujourd'hui et demain. Puis, Sir Pingree continue. Où que nous vivions, et quelle que soit notre situation, chaque jour, par notre fidélité, nous pouvons faire preuve d'une foi en Jésus-Christ, qui nous permet de voir au-delà des promesses non accomplies, des chagrins et des déceptions de cette vie. C'est merveilleux d'avoir une foi qui nous permet d'attendre le jour où tout sera possible à ceux qui croient. Mes frères et sœurs, les circonstances de ma vie d'aujourd'hui sont très différentes de ce que j'avais planifié quand j'avais votre âge. Pourtant, je ne crois pas avoir jamais été aussi heureux. Si l'on m'avait donné, quand j'avais votre âge, le récit de ma vie jusqu'à présent, je pense que j'aurais signé sans aucune hésitation au bas de la page. Je veux parler pour Valérie et moi. Plus j'y pense, plus je crois que ce qui a fait la différence dans notre vie et la vision commune que nous avions de la vie éternelle à l'époque de notre jeunesse. Nous voulions fonder une famille éternelle. Nous savions pourquoi nous étions sur Terre et quels étaient nos objectifs éternels. Nous savions que Dieu nous aimait et que nous avions une grande valeur à ses yeux. Nous avions toute confiance qu'il répondrait à nos prières à sa façon et au moment qu'il jugerait bon. Je ne sais pas si nous étions prêts à accepter sa volonté en toute chose, car c'est quelque chose que nous avons dû apprendre. et que nous continuons à apprendre. Mais nous voulions faire de notre mieux pour le suivre et nous consacrer à lui. Je témoigne, avec le président Manson, que votre avenir est aussi brillant que votre foi. Votre bonheur dépend beaucoup plus des principes que vous choisissez de suivre que des circonstances externes de votre vie. Soyez fidèle à ces principes. Dieu vous connaît et vous aime. Si vous vivez en harmonie avec son plan éternel, si vous avez foi en ses promesses, alors vous avez un avenir brillant. Vous avez des rêves et des objectifs. C'est bien. Travaillez de tout votre cœur à les réaliser. Puis laissez le Seigneur faire le reste. Il vous conduira là où vous ne pouvez pas vous conduire vous-même. Il fera de vous ce que vous ne pouvez pas faire vous-même. En tout temps, acceptez sa volonté. Soyez prêt à aller là où il vous demande d'aller, à faire ce qu'il vous demande de faire. Soyez celui ou celle qu'il attend que vous soyez. Je prie pour que vous ressentiez l'amour de notre Père Céleste dans votre vie, que vous sachiez vous faire confiance comme il vous fait confiance. Je prie pour que vous soyez toujours fidèle, à toute heure et en tout lieu. Je vous exprime mon amour, mon admiration et mon profond respect pour les exemples et la force que vous êtes pour le monde entier. Je témoigne que cette vie est un merveilleux moment de l'éternité. Nous sommes ici-bas dans un but glorieux, celui de nous préparer à rencontrer Dieu. Son Fils Jésus-Christ vit, et son expiation est un don infini d'amour qui ouvre la porte d'un bonheur éternel. L'Église de Jésus-Christ existe à nouveau sur la terre, dans une forme parfaite, avec à sa tête un prophète de Dieu. C'est une joie et un privilège immense que de faire partie de cette Église. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
My brothers and sisters, the circumstances of my life today are obviously very different from what I had planned when I was your age. However, I don't believe I've ever been so happy. If one had given me when I was 20 years old the account of my life up to the present, I think I would have signed without any hesitation on the dotted line. I want to speak on behalf of Valerie and me. The more I contemplate the course of our lives, the more I believe that what has made a difference in that is that in our youth, we shared a common vision of eternal life. We wanted to start an eternal family. We knew why we were on earth and what our eternal objectives were. We knew that God loved us and that we had great worth in His eyes. We had every confidence that He would answer our prayers in His way and at the time He deemed good. I don't know if we were ready to accept His will in all things, because that was something we had to learn and that we continue to learn. But we wanted to do our best to follow Him and consecrate ourselves to Him. I testify with President Manson that your future is as bright as your faith. Your happiness depends a lot more on the principles that you choose to follow than the external circumstances of your life. Be faithful to these principles. God knows you and loves you. If you live in harmony with His eternal plan, and if you have faith in His promises, then your future will shine. You have dreams and goals. That's good. Work with all your heart to accomplish them. Then let the Lord do the rest. He will lead you where you cannot lead yourself. He will make you into what you cannot make of yourself. At all times, accept His will. Be ready to go where He asks you to go and to do what He asks you to do. Become the man and woman He's nurturing you to become. I pray that you will feel the love of our Heavenly Father in your life. You will know how to trust yourself as He trusts you. I pray that you will always be faithful at all times, in all places. I express my love for you and my admiration and my deep respect for the example and strength you are for the entire world. I testify, this life is a wonderful moment of eternity. We are here with a glorious goal, that of preparing to meet God. His Son, Jesus Christ, lives, and His atonement is an infinite gift of love that opens the door to an eternal happiness. The Church of Jesus Christ exists again on the earth in a perfect form, with a prophet of God at its head. It's an immense joy and privilege to belong to this church. In the name of Jesus Christ, amen.
Notre cher Père Céleste, nous sommes très reconnaissants pour le Saint-Esprit que nous avons ressenti ce soir. Nous sommes reconnaissants pour les paroles de Frère Cossé, pour l'amour, son amour que nous avons ressenti. Nous sommes reconnaissants pour cet évangile et pour la connaissance que nous avons de savoir qui nous sommes. Et nous prions afin d'avoir le courage de trouver, de savoir qui nous sommes et de comprendre notre potentiel. Aide-nous à ne jamais oublier d'où nous venons et de notre... Nous prions d'être protégés ce soir et disons ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen.